Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. En ce moment même, le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, s'adresse aux médias pour expliquer de quoi va avoir l'air la rentrée prochaine, la rentrée cet automne. Et à la lumière de ce que nous a dit hier le docteur Horacio Arruda, la création de ces bulles entre les enfants, les distances à respecter d'un mètre et demi, de deux mètres, je vais vous demander comment vous entrevoyez cette rentrée scolaire de l'automne, au moment où donc où le ministre de l'Éducation va nous expliquer un peu comment lui-même, avec son gouvernement, il voit ça. Un ministre, d'ailleurs, j'en profite pour le glisser au passage, dont on dit qu'il est de plus en plus fragilisé par une gestion un peu chaotique du dossier. Et c'est vrai que je vous encourage à lire dans Le Devoir ce matin, il y a une espèce d'autopsie de la crise en éducation, c'est-à-dire qu'on rappelle à partir du 12 mars 2020 comment ça a été géré, ce dossier-là, jusqu'à aujourd'hui. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est quand les enseignants se sont fait dire qu'il y aurait peut-être, qu'on leur imposerait peut-être des camps pédagogiques sur lesquels, d'ailleurs, François Legault est revenu pour dire que c'était pas simple non plus et que, à la décharge de son ministre Roberge, il y avait beaucoup de gens là qui étaient pas forcément convaincus qu'il fallait retourner travailler. On écoute François Legault, d'ailleurs, lundi.
Moi, j'ai été 3 ans ministre de l'Éducation, là, puis les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, là, autisme, trouble d'attention, etc., de pas aller à l'école pendant 6 mois, là, c'est presque dramatique pour ces enfants-là. Donc, on a sorti l'idée à un moment donné de dire, on pourrait-tu avoir des camps pédagogiques l'été? Quand on est venu te demander aux directions d'école puis aux enseignants de faire des camps pédagogiques pour le 20 % d'élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, disons qu'ils sont choqués, là.
Fait que vous comprenez que, à la décharge du ministre Roberge, du gouvernement Legault, ça n'a pas été simple gérer tout le milieu de l'éducation. C'est assez sectoriel. Il y a beaucoup de syndicats, beaucoup de monde, différents groupes de pression. Il y a les enseignants, il y a les parents, il y a les enfants. Bref, c'est pas simple. C'est pas simple de prévoir la rentrée non plus. Le ministre est en train d'expliquer qu'il y aura une réouverture de 100 % des classes à l'automne. Donc, ça va se faire dans quelles conditions? On va en discuter et je veux bien sûr vous donner la parole là-dessus parce que je pense qu'on a tous droit d'émettre son opinion par rapport à ce qu'on va vivre. Si vous avez des enfants, raison de plus. Avec nous, Égide Royer, les psychologues, professeur titulaire associé à la Faculté des sciences et de l'éducation de l'Université Laval. Bonjour, monsieur Royer.
Bonjour, madame Maréchal.
Vous avez été consulté cette fois-ci par le bureau du ministre de l'Éducation. On vous a appelé hier.
Oui, non, c'était une consultation à plusieurs reprises depuis le courant du printemps. D'ailleurs, parler des camps pédagogiques, c'était une de mes recommandations au niveau des camps pédagogiques, la possibilité d'avoir certaines formes de support par rapport à des jeunes qui sont plus à risque. Les aléas de la santé publique ont fait que cette recommandation-là ou la décision a été prise très tard, là, mais il y avait une plus-value réelle. Là, et on a des données qui disent que ça fait une différence par rapport à certains jeunes, surtout quand on fait ça en juillet et en août. Là.
Mm-hmm.
Oui.
Donc, mais là, on entendait François Legault qui disait que ça n'avait pas été simple parce qu'il y a du monde qui était fâché. Bon, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas tout le monde qui voulait forcément retourner travailler tout de suite dans certaines conditions où on vivait une crise sanitaire. Il y a ça. Sur ce qui est annoncé ce matin, Égide Royer, comme on vous a contacté hier, vous savez en gros ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce qu'on parle d'abord d'une rentrée en mode présentiel. Ça, c'est le contraire de virtuel. Ça veut dire tout le monde va être là. En personne, en chair et en os, voilà. C'est une bonne nouvelle, ça, pour tout le monde.
C'est une excellente nouvelle. Écoutez, je pense que la très grande région de Montréal, depuis la mi-mars, là, qu'il n'y a pas eu de présentiel. Et au secondaire, c'est toute la province. Donc, c'est un passage obligé. C'est une très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, il faut que de plus en plus les impératifs reliés à la réussite scolaire et au bien-être des jeunes à l'école là, deviennent aussi importants que les impératifs de santé sur lesquels à partir desquels, en tout cas, on a aidé à la remorque des impératifs de santé suffisamment longtemps, parce qu'il y a des impacts réels dont on doit se préoccuper pour la rentrée de septembre par rapport à des jeunes qui, justement, ont été sans enseignement en présentiel depuis au-delà de 3 mois.
Vous dites qu'on a été à la remorque des consignes sanitaires. Est-ce que vous êtes en train de dire que là, ça suffit, il faut vraiment la priorité Oui, à faire attention aux normes sanitaires, mais la priorité, c'est de remettre tout le monde au travail, à l'école.
Oh oui, parce que, écoutez, je vais mettre ça de manière très simple au niveau des séquelles possibles. Moi, si je suis direction d'école là, en septembre, trois questions très simples que je me pose. Qui me revient en plus grande difficulté scolaire à cause justement des retards scolaires qui ne sont pas récupérables uniquement avec une forme de mise à jour? Qui ne revient pas? Vous êtes directrice du secondaire, vous là, à un moment donné, vous apercevez que au niveau des jeunes de 3e et 4e secondaire, là, il vous en manque 15, 20, 25, 30, selon la grosseur de votre école secondaire. Ça, on appelle ça du décrochage. Là. Mm-hmm. Il n'a pas tenu son niveau, il n'est pas revenu. Et l'autre élément, qui est à risque de ne pas être en mesure d'obtenir un diplôme du secondaire? Échec en français et en mathématiques, là, au bulletin là, de l'année qui vient de se finir, c'est déjà d'être à risque de ne pas être en mesure d'obtenir un diplôme. Ça, c'est des séquelles bien réelles. On peut toujours dire, écoutez, il y a un risque de ne pas respecter le 2 mètres chez des adolescents de 14 ans, mais si mon taux de décrochage scolaire augmente, si j'ai 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 jeunes qui en surplus décrochent de l'école, ça aussi, c'est un risque. C'est pas sanitaire, mais c'est social et ça a un impact marqué sur la vie de ces jeunes-là. Donc, il faut balancer l'impact que peut avoir. Et ça, les pédiatres sont sortis fréquemment là, par rapport à ces questions-là.
Mmh. Là, ce qu'on sait, c'est que 100% des élèves donc, vont reprendre l'école à l'automne. Ça va être des groupes fermés. Les rapports maître-élève habituels, ça va être jusqu'en 3e secondaire. Mais en 4e et 5e secondaire, là, il y aura des espèces d'options là, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir aménager des horaires. Et on pense même à une option de combiner école et virtuel, c'est-à-dire présentielle et virtuelle.
Et ça, les ajustements fins devront être faits directement par les directions d'école. Donc, c'est le principe qu'en 4e, 5e secondaire, les options amènent à briser le groupe. Là. On a à se déplacer ou à changer de groupe de classe pour aller chercher l'enseignement de certaines options. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est dans le plan B, c'est d'avoir un plan B autant que faire se peut qui permet aux jeunes de venir à l'école chaque jour. Mmh. En tout cas, d'éviter quelque chose qui ressemble. J'y vais le lundi, le mercredi, le vendredi, la semaine suivante, j'y vais le mardi, le jeudi. Ça, c'est une recette pour augmenter les taux d'absentéisme. Mais probablement qu'il va falloir que privilégier même en 4e, 5e secondaire, privilégier toujours une forme de présentiel le plus important possible, là, de manière à ce que le velcro, l'attachement avec l'école demeure là. Parce que j'ai des jeunes qui sont plus fragiles que d'autres. Là, je reviens à ma question de décrochage scolaire de tout à l'heure. Et il va falloir vraiment garder cette préoccupation-là bien à l'esprit.
Oui, mais c'est quand même un réel risque que les jeunes, sachant pas trop à quoi s'en tenir, je parle surtout des secondaires 4 et 5, surtout s'il y a une espèce de combination des deux modes, là, à la fois tu es en classe, tu sais plus quelle journée, le lendemain c'est virtuel. Il va y avoir pas mal d'exceptions à gérer, là.
Oui, puis il faut limiter le nombre d'exceptions au minimum parce que c'est toute la perspective d'avoir une routine d'installer. Je suis revenu à l'école, je suis en 4e secondaire, j'ai une image claire de comment ça fonctionne. Peut-être qu'un jour semaine, je vais être en enseignement à distance. Cet enseignement à distance-là va être très bien organisé. Il va avoir un suivi autant que faire possible, ce sera même en direct, si je suis capable de le faire en temps réel. Mais c'est l'idée d'avoir le moins de cordes pendantes possibles par rapport à ce retour en classe-là et d'avoir un plan B très, très clair. Le plan A, il est clair. Tout le monde retourne à l'école. Mais le plan B, 4e, 5e secondaire, il faudra vraiment que ce soit quelque chose de très prévisible, de bien organisé et assurant la possibilité d'un présentiel le plus fréquent possible.
Ouais. Sinon, gros risque de décrochage, on s'en est déjà parlé, vous le confirmez ce matin. Vous m'aviez aussi dit, Égide de Royer, qu'on parle souvent, bon, on parle du primaire, du secondaire, mais on oublie souvent, et pourtant on ne devrait pas, tous ces étudiants qui sont en formation professionnelle et formation générale. Et là aussi, il y a des conditions. Là, le ministre Roberge est en train de parler en ce moment même de la formation hybride, c'est-à-dire l'apprentissage sur place ou à distance, selon le contexte. On dit qu'entre chaque élève dans les classes donc de formation professionnelle, il faudra que ça soit une distance de 1,5 mètre et une distance de 2 mètres pour tous dans les laboratoires et les aires communes. Ça, c'est ce qu'il vient d'annoncer. Comment vous voyez ça?
Je vois ça comme quelqu'un qui anticipe qu'encore là, probablement que ça va changer éventuellement, mais à ce moment-ci, au niveau des laboratoires et de la formation professionnelle, on se retrouve dans un contexte où les gens vont faire en sorte de tenter de respecter ces espaces-là, mais j'ai l'impression qu'on se retrouve graduellement vers quelque chose de moins en moins exigeant, de moins en moins contraignant, là. Parce qu'à côté de ça, vous avez l'ouverture à des groupes, si j'ai bien compris, de 50, là, dans la ouais. mesure où il n'y a pas de déplacement. Donc, il va falloir simplifier le plus possible le message, parce que plus vous en ajoutez au niveau d'exception, de contexte ou de situation puis de distance, plus ça devient confondant. Écoutez, les adultes eux-mêmes deviennent mêlés assez facilement. Imaginez les ados. Donc, j'ai l'impression qu'on va, on va se retrouver à quelque chose qui va être moins contraignant et que les adaptations vont être faites par les directions d'école et les enseignants eux-mêmes.
Ouais,
à surveiller néanmoins la question de l'enseignement aux adultes. Comme je vous disais l'autre fois, on a... Écoutez, la majorité des adultes, là, à l'éducation des adultes, ont entre 16 et 19 ans.
Mm-hmm.
Et eux sont très sérieusement à risque de décrochage dans le contexte actuel. Donc, ça implique en tout cas d'avoir, je parlais de présentiel tout à l'heure, mais d'avoir un très bon contact, d'avoir un lien serré et de ramener tout notre monde à l'éducation des adultes.
Mm-hmm. Oui.
La question de l'espace, là... On fait ce qu'il y a à faire, mais présentement, le plus urgent pour la rentrée scolaire ne sera pas ça. Ça va être véritablement d'avoir notre monde là, et d'intervenir auprès de ceux qui sont plus à risque.
Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de règles. Je suis en train de lire, par exemple, le soutien aux élèves en difficulté. Là, on parle de, bon, évidemment, en respect des mesures d'hygiène qui vont être accrues. On parle de sous-groupes fixes de 6 élèves au moins, les fameuses bulles, c'est ça? Bon, ce matin, on entendait Hélène Bourdage, là, des regroupements d'établissements scolaires, qui disait que c'est une bonne nouvelle, la reprise. Et qu'en même temps, bon, l'histoire des bulles, pour les petits, on était habitués. Là, on parle de distance d'un mètre entre les élèves, de sous-groupes différents et de 2 mètres avec le personnel. Les enseignants se déplaceraient, au lieu que ce soit les élèves qui se déplacent d'une classe à l'autre, ce serait les enseignants qui se déplacent. Et là, on parle d'une distanciation physique de 1 mètre dans le transport scolaire. En même temps, je vois que le ministre Roberge vient de dire là, il y a quelques minutes que les parents sont invités à assurer idéalement le transport de leur enfant. Ça va créer tout un autre tollé, parce qu'il y a bien des gens qui vont réagir, j'en doute pas, pour dire qu'ils sont pas en mesure de conduire eux-mêmes leur enfant. Puis on sait que le nerf de la guerre au Québec, c'est beaucoup le transport scolaire. Mm-hmm. Les horaires de classe sont faits, on se l'est souvent dit, en fonction des horaires d'autobus, en tout cas dans bien des régions du Québec. Comment vous voyez ces règles,
je vais vous donner,
tout ça?
Je vais vous donner un commentaire, même une recommandation générale. Si une de ces mesures-là est susceptible de causer ou de renforcer la probabilité qu'un jeune échoue à l'école ou décroche à l'école, l'argumentaire éducatif doit prendre le dessus. Si on dit, écoute, on favorise que les parents aillent reconduire l'enfant à l'école, mais le parent qui ne serait pas en mesure d'aller reconduire l'enfant à l'école ou qui va le reconduire seulement une fois sur deux et que ça risque carrément d'avoir un impact sur la réussite de ce jeune-là, écoutez, moi, je suis orthopédagogue, je travaille avec des jeunes de première, deuxième année qui ont des gros retards en lecture, mais la distanciation exigée, le local que j'ai présentement, fait que Pierre, Marie et Jean-Pierre ne seront pas en mesure d'avoir un suivi d'orthopédagogie à cause des limites de la santé. Il va falloir balancer l'impact ou l'inconvénient. Là. Et entre être à 1 mètre et quart là, et développer un retard en lecture, là, moi, j'ai pas beaucoup de difficultés à décider c'est quoi que je veux mettre en priorité.
Entre attraper la COVID et traîner un retard...
Lumière des données actuelles, la possibilité que des enfants attrapent la COVID entre eux versus la possibilité qu'un jeune soit en échec scolaire et décroche de l'école ou n'obtienne jamais de diplôme à l'école parce qu'il a développé un retard important en lecture, tout ce que je dis, il va falloir balancer les deux. La santé est importante, les indications de la santé, mais si j'ai des indications de la santé qui amènent carrément une compromission ou le risque d'avoir des séquelles importantes au niveau de la réussite éducative ou au niveau du comportement ou de l'affectivité de certains enfants, je recommande simplement de balancer, d'avoir une balance entre les deux, être capable d'évaluer quel est le risque le plus important.
Oui. Et en disant ça, je sais tout à fait quelle est votre réponse à cette question. Vous restez avec nous, Égide Royer, bien sûr. Nous allons à la pause tout de suite. Beaucoup de gens déjà m'écrivent. Annie me dit que ses enfants sont au primaire. Dans les Laurentides, ils sont retournés à l'école en mai. Ça se passe bien, surtout parce qu'ils sont dans des petits groupes de 11 enfants. J'espère vraiment que le ministère n'oubliera pas les outils en ligne et sera prêt en cas de seconde vague, m'écrit Annie. Faut absolument pas revivre la situation du mois d'avril. Elle parle de ses nièces qui sont en Ontario. l'Ontario qui ont eu un mot de passe sur Google Classroom dès le début de leur parcours scolaire, que les profs y versaient des travaux s'ils sont absents, que ça fonctionnait super bien. Puis ce qu'on comprend, bien, c'est qu'au Québec, c'est loin d'avoir été le cas. Alors, je vous donne nos numéros pour pouvoir intervenir sur cette question. 1-866-790-9850. Ça, c'est pour nous joindre dans toutes les régions du Québec. Dites-moi comment ça s'est passé dans vos écoles avec vos enfants. Comment surtout vous entrevoyez cette rentrée scolaire de l'automne avec toutes ces règles qu'on va prendre bien l'émission, mais aussi la journée pour en discuter et sans doute demain encore parce que il y a tellement de ne serait-ce qu'à la lumière de ce qui est en train d'être dit et d'être expliqué là, par le ministre Roberge, il y a tellement d'exceptions que là encore, il va y avoir beaucoup de questions et de confusion, j'ai l'impression. Pour nous joindre à Montréal, vous faites le 514-790-9850. Avec les bulles, les nouvelles bulles dont on parle depuis hier, les distances à respecter, un mètre et demi, deux mètres dans les écoles et pour la rentrée prochaine, comment vous voyez ça, vous comme parents ou comme proches de jeunes d'âge scolaire, si vous êtes aussi aux commandes d'un autobus scolaire, dites-moi comment vous voyez cette rentrée. Là, on a demandé, on a encouragé, on n'a pas demandé, on a invité les parents à assurer le transport de leur enfant dans la idéalement, là, y a Mélanie qui me dit, moi, ça va être impossible d'aller reconduire mes enfants. J'ai quatre enfants dans quatre écoles différentes. J'ai deux enfants en classe d'adaptation. Je peux pas être à quatre places en même temps. Des bulles de six, alors que des groupes d'adaptation sont souvent à neuf enfants. Je vois pas comment ça va marcher quand ça va faire des bizarres de classe. Bon, Mélanie est pas convaincue du tout. On a Daniel avec nous. Bonjour, Daniel.
Oui, bonjour.
Comment vous voyez ça, vous?
Mais en fait, moi, je suis conscient qu'on vit dans un contexte de pandémie et on vit dans un monde d'incertitude. Mais j'aimerais savoir, pour la rentrée future, comment ça va se passer? On parle de restreindre la classe à 6 élèves maximum et on se plaint qu'il y a une pénurie de professeurs. Donc, comment on va se passer cette gestion-là?
En fait, ça va être des bulles de 6 personnes. De ce que je comprends, c'est des regroupements en équipe jusqu'à 6 personnes. Et de ce que je comprends, il y en aurait 4 par classe, donc 24. Je vais demander à Égide Royer si c'est bien ce qu'on lui a confirmé. Égide?
Oui, on fonctionne avec des sous-groupes, un genre de bulles ou de familles.
Ouais.
Mais suite à la question de votre auditeur, il va falloir absolument simplifier le message de beaucoup, beaucoup, et rendre ça le plus clair possible. Parce que déjà la confusion semble s'installer lorsqu'on regarde un peu des commentaires qu'on reçoit.
Oui, exactement.
Et la mesure la plus importante, selon moi, c'est que la rentrée en septembre 2020, ce sera une rentrée différente parce que bon nombre de jeunes ont manqué 3 mois de classe. Donc, il s'agit d'intervenir pour compenser et d'éviter que ça ait un impact négatif sur la vie de ces jeunes-là. Et si une mesure de la santé, le mètre et demi ou 2 mètres, a comme résultat d'amplifier les retards scolaires, des difficultés d'un jeune, il doit y avoir dérogation en disant on va déroger à cette règle-là parce que le fait de l'appliquer a plus d'impact négatif pour l'avenir de ce jeune-là que le fait de rester à un mètre et demi ou quelque chose du genre.
Mm-hmm.
Il va falloir véritablement que l'éducation s'affirme par rapport à l'importance au niveau de la réussite, mais l'importance aussi des séquelles que certains jeunes peuvent avoir suite à l'application de cette norme.
Et Gilles Royer, qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent, oui, ben là, un instant, là, il y a quand même plus de 5000 Québécois qui sont morts, donc l'éducation, ça reste secondaire par rapport à la santé. Il y a des gens qui m'écrivent ça.
Écoutez, les gens qui fréquentent nos écoles présentement ont moins que 80 ans. Et ce que je veux dire simplement, c'est que dans l'État, là où je parle comme chercheur,
oui.
Si on regarde l'ensemble, c'est les 4000, environ 4500 des décès sont produits en CHSLD. Et si on regarde l'état actuel des connaissances par rapport aux risques vécus par les enfants, par rapport aux risques de transmission, et ne pas recevoir de services en orthophonie pendant 6 mois à cause d'une forme de règle de distanciation va avoir beaucoup plus d'impact sur l'avenir d'un jeune en termes de risque. Si vous avez eu la probabilité du risque, va être beaucoup plus importante que d'avoir de temps à autre moins d'espace ou être plus près d'un ami.
Mm-hmm. On parle bien sûr, là il y avait le docteur Richard Massé, là, toujours dans cette conférence de presse où le ministre Jean-François Roberge expose son plan là, pour la rentrée prochaine. Et le docteur Massé de la Direction nationale de la santé publique dit effectivement qu'il va falloir aménager les classes de façon différente. Il est revenu sur le concept de bulle aussi, il disait qu'ils sont basés sur des expériences dans d'autres pays, comme quoi ce concept de bulle a déjà fait ses preuves ailleurs, donc ça se gère tout à fait. Mais c'est sûr qu'il va falloir aménager les classes différemment. Et Gilles de Royer, qu'il va falloir considérer aussi la diversité aussi des modèles un peu partout au Québec. Je veux dire, une école qui est en Gaspésie versus une école secondaire à Québec ou une immense polyvalente sur la rive sud de Montréal ou à Montréal, ça va demander des ajustements complètement différents. Là.
Je dois vous quitter, je suis en onde dans les prochaines secondes. Donc, on va, mais évidemment, ça va être au niveau local qu'il va y avoir des situations, des adaptations qui devront se faire. Passons les grands principes en disant voici les grands principes pour organiser l'année scolaire, les grandes balises, et laissons le soin aux enseignants ou aux directions d'école de faire les adaptations qui vont être très variables dépendamment, comme vous le dites, d'une région à l'autre.
Voilà. Ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous laisse aller. Merci beaucoup. Égide de Royer, psychologue, professeur titulaire associé à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. On a Michel qui est avec nous. Bonjour, Michel.
Oui, bonjour.
Comment vous voyez ça, vous, la rentrée scolaire?
Ben, je vois la rentrée scolaire de la même manière qui a été organisée la fin de l'année scolaire. Moi, j'ai un garçon qui est en seconde. Oh. Pendant 3 mois, ils n'ont absolument rien fait. Et du jour au lendemain, le 11 mai, les professeurs sont mis à surcharger les élèves jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 23 juin.
Ouais.
Alors, donc, moi, je trouve que le ministre là devrait prendre position au lieu de se promener de gauche à droite, devrait prendre une directive, consulter, première des choses, les gens, les organismes scolaires, les consulter et après consultation, arriver avec une décision finale pour l'automne.
Ouais. Dites-moi, Michel, vous dites que vous avez un fils, il est en quel secondaire?
Secondaire 5, il s'en va au cégep.
Ah, secondaire 5. Ouais. Puis là, il va au cégep, donc, à l'automne.
Oui, oui. C'est tellement bien organisé actuellement, le SRAM puis tout, que moi, je l'ai envoyé au collège privé. Terminé.
Ah oui? Ah oui?
Absolument. C'est tout désorganisé. On ne peut pas rejoindre personne. Tout le monde fait du télétravail. L'école, c'était pareil. Le 3/4 des matières qu'il a fait, il n'y a aucun résultat de donné. Et la cerise sur le Sunday, le ministre a décidé de donner des réussites ou des échecs pendant que les élèves ont fait des travaux, puis qu'encore aujourd'hui, les travaux sont notés, mais on va avoir un échec ou une réussite. Mm. Ah, donc, tous les élèves de secondaire 5 ont fait une demande qui ont été refusés au cégep parce qu'il n'y avait pas la note. Dans quelle position pensez-vous qu'il se retrouve aujourd'hui?
Ah, tout à fait, tout à fait.
C'est extrêmement proche.
Ouais. Alors, donc, merci. Non, ben, merci. C'est pour ça qu'on prend le pouls des auditeurs, pour vraiment avoir votre opinion là-dessus. Puis c'est sûr que vous avez tous des situations aussi différentes. Vos jeunes sont dans des classes différentes, dans des écoles différentes et avec parfois des professeurs ou des directions d'école extrêmement compréhensives et par autres moments, et vous êtes nombreux à me l'écrire, ben, à d'autres moments, comme ce que nous dit Michel, ben, c'est une fin de non-recevoir. On ne peut pas négocier, c'est de même, c'est de même. Alors, c'est sûr que ce n'est pas simple. Au moment où le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur nous présente son plan de la rentrée scolaire d'automne, je vous demande comment vous voyez ça pour vous, que vous soyez en Outaouais, en Estrie, dans la région de Québec, en Mauricie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Appelez-nous au 1-866-790-9850 et dans la région de Montréal. Bien sûr, vous faites le 514-790-9850. On vous donne la parole après ceci. Appelez-moi pour me dire comment vous voyez cette rentrée scolaire à l'automne. Le ministre Jean-François Roberge vient d'expliquer là, en gros les points principaux. Puis notre journaliste Annie Guimet est sur place. On aura l'occasion de lui reparler là, à la fin de la conférence de presse qui a toujours cours. En attendant, Carole, vous, comment vous voyez ça? Bonjour.
Bonjour. Moi, mes filles, j'en ai une au secondaire 5, puis l'autre est à l'université. Puis ils ont fait du télé, tu sais, par ordinateur à la maison, puis ils ont pas aimé ça.
Ouais.
Puis c'était toujours, c'est soit que ça l'arrêtait l'Internet, ou puis ils donnaient trop de travaux à un moment donné, puis t'avais jamais des notes, tout ça. Puis ma fille a fait des examens en ligne, puis elle l'a fait quasiment 2 heures, puis l'examen a pas compté parce que... Ça a flushé, là, tu sais. Fait qu'elle a fait un examen pour rien.
Ouais, ouais.
Puis moi, je suis pour qu'il y ait école, mais moins d'élèves. Pour à l'université, c'est quasiment 400 élèves à 300. Fait que je me demande comment ils vont faire. Puis ma fille, elle me dit qu'ils ont reçu une lettre. Puis ils ont dit même si l'école ouvrirait, eux autres, ça serait ordinateur à l'Université de Montréal.
Ah oui, effectivement, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'universités qui sont en mode télé-études, c'est-à-dire télétravail scolaire, c'est-à-dire par non pas ce qu'on appelle le présentiel, mais bien le virtuel. C'est pas simple. Les gens me posent des questions. Merci, Carole, sur le cégep également. Ce qu'on sait, c'est que la cote R va être rétabli pour cet automne, mais il y a encore beaucoup de questions qui demeurent. Il y a beaucoup de gens là, qui réagissent aussi par rapport au transport scolaire. Là. Je vous disais tout à l'heure que le ministre avait invité les parents à conduire idéalement leurs propres enfants à l'école, leurs enfants à l'école dans la mesure du possible, à assurer le transport de leur enfant. Je peux vous dire que ça ne va pas être évident pour tout le monde. On va aller tout de suite rejoindre notre... Oui, est-ce que Carole est toujours là? Oui, Carole!
Oui. Moi, c'est parce que moi, ma fille était supposée avoir son permis de conduire le 18 mai. Puis, en fin de compte, vu de la COVID, ben là, elle l'a pas. C'est moi qui fais le taxi. Fait que je vais probablement faire le taxi au cégep si ça se rétablit pas.
Ben oui. Allez-vous pouvoir le faire? Aurez-vous le temps? Est-ce que vous travaillez?
Ben non, j'ai pas le temps, mais ouais. je vais être obligée de payer soit un taxi ou qu'un voyage avec des amis, mais c'est, au cégep, ben en sciences nature, ouais. Quand elle va y aller, c'est sûr que ses notes vont baisser parce qu'elle a pas vraiment appris en...
Ah oui, c'est ce que... Ouais, il y a une perte de... Oui, tout à fait, c'est sûr. Merci, merci beaucoup, Carole. Okay, merci. On va aller rejoindre notre collègue de Cogeco Nouvelles, Annie Guillemette, qui suit donc le point de presse de Jean-François Roberge. Bonjour, Annie.
Bonjour, Isabelle.
Alors, tu vas nous faire un espèce de bilan de ce qui a été dit ce matin, clarifier tout ça, parce que je peux te dire que nous, au fur et à mesure que Jean-François Roberge l'expliquait, son plan de rentrée scolaire pour cet automne, au fur et à mesure, les questions étaient de plus en plus pointues. Les gens, évidemment, sont un peu confus, on comprend. Il y a tellement de règles. Donc, en gros, Annie, à quoi faudra-t-il s'attendre cet automne pour les enfants?
Ben, en gros, Isabelle, ce qu'on vise, là, parce que bien sûr, il y a un plan B, si jamais il y avait une deuxième vague, si jamais on se retrouvait avec des éclosions, tout ça, on veut être prêt à retirer les enfants des classes, les retourner à la maison s'il y a un pépin. Mais si ça fonctionne bien, le plan de Jean-François Roberge et du ministère, c'est que les élèves du préscolaire, du primaire, du secondaire, jusqu'à secondaire 3, soient à temps plein à l'école, dans leur classe, et qu'on puisse donner les cours comme à l'habitude, parce que ce qu'on vise, c'est que les jeunes demeurent dans leur classe toute la journée. Donc, bien sûr, il y aura les cours d'éducation physique, tout ça, les récréations, mais on ne veut pas que les élèves changent de classe ni de groupe pour empêcher la propagation du virus si jamais on a des pépins de ce côté-là. Là où ça se complique, où il y a plus d'enjeux, Isabelle, c'est pour les plus vieux. Mm-hmm. Parce que là, il y a des options, il y a des cours particuliers, des laboratoires, des choses comme ça. Donc, pour ça, là, on prévoit être le plus souvent possible en classe, mais on prévoit aussi avoir à donner des cours en ligne à certains élèves. On dit que là, on a le temps de nos ambitions maintenant, on a le temps de se préparer autant pour les profs que pour la logistique informatique. Et donc, ça devrait bien aller. L'objectif pour les plus vieux est d'aller à l'école un minimum de 50% du temps. Et on pourrait faire de la classe en ligne pour un autre 50%. C'est le plan de match. Même chose pour le cégep, même chose pour l'université. Bon, comme vous le dites, là, au niveau des choses très, très pointues, la distance, petit groupe, pas de distance, moyen groupe, 1 mètre, avec les adultes, 2 mètres. Tout ça, c'est plutôt compliqué, je vous l'accorde, mais le gros de l'ambition ministérielle à l'heure où on se parle, c'est que l'école reprenne presque à la normale, selon le calendrier scolaire qu'on avait, comme d'habitude, là, le début des classes à la fin du mois d'août prochain.
Annie, est-ce qu'on a demandé au ministre Roberge s'il avait jonglé avec la possibilité de rouvrir sans en mettant ça simple, genre 1 mètre pour tout le monde? Pas de bulles, les profs, enseignants, les jeunes, tout le monde. Là, pour comme une règle, je pense que ça prend une règle à un moment donné. Ouais. Parce que quand tu as une règle avec un alinéa A, un B, un C, selon le groupe, l'option 1, l'option 2, sincèrement, je blâme pas les gens qui disent que c'est compliqué déjà. Là. Alors,
non, pas
est-ce qu'on lui a demandé, avait-il jonglé avec cette idée de faire ça vraiment simple?
Ben, lui nous dit dit que c'est pas compliqué, que c'est quelque chose qui existe présentement dans les écoles un peu partout au Québec qui sont déjà ouvertes et que ça fonctionne bien. Le docteur Richard Massé, qui est avec lui ce matin, nous a expliqué que l'idée des petits groupes dans les classes pour pouvoir travailler en équipe, pardon, ça fonctionne ailleurs dans d'autres pays. Ça a été essayé en classe, oui, mais aussi pour des groupes de travail, donc avec des adultes, et que ça se déroule bien. Donc, on a un peu copié des bonnes options ailleurs. Ça reste que au niveau de la distanciation sociale, c'est un grand défi parce que ben, les plus jeunes, si on a un pépin, on veut se faire consoler, eh ben un câlin à 2 mètres, ça va pas très bien. Mais on nous dit que ce qui se passe actuellement dans les écoles ouvertes du Québec, ça se déroule bien et qu'on passe, on part de là pour aller à quelque chose d'encore plus, je dirais, normalisé pour septembre. Encore une fois, il faut bien sûr se croiser les doigts parce que la deuxième vague pourrait arriver à l'automne. Donc, il y a des intentions aussi de ce côté-là. S'il y a des éclosions, s'il faut fermer une école, une classe et même une région, ben on sera prêt. D'ailleurs, le ministre Roberge a rappelé qu'on avait annoncé du côté de Québec plusieurs millions de dollars pour racheter des ordinateurs, des tablettes, pour que tous les élèves qui ont à être retirés de leur classe puissent travailler, parce que ça a été vraiment la grande lacune depuis le mois de mars.
Ouais, ça va faire une rentrée très, très, très particulière. Hein?
Ça va être très, très spécial en septembre prochain. Mais le ministre a dit que dans quelques jours, ce sera les vacances. Elles seront salutaires. Pour
les vrais, là, celle-là, il a dit c'est les vacances. Vrais. C'est les vrais, là. Parce qu'on se souvient qu'il avait déjà dit aussi les professeurs, les élèves vont être en vacances jusqu'au 30 mars. Il avait dit ça au moment où tout le monde a été confiné.
C'était presque drôle. Il a dit aujourd'hui, j'ai le droit de prononcer ce mot.
Il a dit ça? Ah
ouais,
c'est ça.
Vraies vacances.
Ouais,
oui, les vacances sont salutaires cet été. On va profiter du beau temps un peu. Et puis, à l'automne, les gens devraient être prêts à attaquer la nouvelle année avec une préparation qui sera, mais vraiment, aux antipodes là, de celles qu'on avait au mois de mars.
Même si ça va être des vacances raccourcies, parce qu'il va falloir se préparer. Là, ça arrive vite la fin août, puis il va falloir que les établissements scolaires soient prêts. Là. J'espère qu'ils ne vont pas s'y prendre là, quelques jours avant, là, mais je ne peux pas croire. Là. J'imagine qu'ils vont vouloir, maintenant que le plan est annoncé. Puis ça, au moins, il faut le dire, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Annie Guillemette. Merci bien, Annie. On écoutera tes reportages dans le cadre de nos bulletins de nouvelles. C'est quand même une bonne chose. On a Stéphane qui est avec nous. Êtes-vous d'accord avec ça, Stéphane, que au moins, là, il y a un plan, il est annoncé 2 mois avant, donc on ne peut pas dire qu'il s'y prend trop tard, ça on lui concède au ministre de l'Éducation. Est-ce que vous trouvez ça clair, vous, pour cette rentrée prochaine, Stéphane?
Concernant la rentrée, évidemment, je trouve ça assez clair. Je veux dire, on devient un peu plus à la normale, en tout cas, du moins, avec une grosse similarité là, tu sais, dans le sens où les enfants ne seront pas perdus.
Mm-hmm.
Dans le fond, mon appel, moi, c'était pour justement un appel précédent. Les gens qui parlent dire tout le temps que c'est les notes. L'enfant, quand il, même s'il n'a pas la note, mais il a fait le travail, il ne faut pas oublier que le travail, il l'a fait pour lui ou elle. Il ne faut pas oublier non plus que la personne reste, ou l'enfant reste dans la routine. La personne, l'enfant reste un peu connecté avec ses enfants. Donc, la note est importante dans la condition qu'on est là. Je ne sais pas, mais le travail, oui, parce que l'apprentissage que l'enfant va l'avoir fait jusqu'à là, cette semaine, quand ça va être terminé, bien, ça va lui rester jusqu'en septembre quand il va revenir. Donc, il n'aura pas manqué tant que ça. Fait que je trouve que c'est positif, mais la note, je ne sais pas si c'est important. C'est mais l'intégration.
La note est importante, Stéphane, si cette note-là fait couler le jeune.
C'est plus sensible pour les secondaires 5. Il y a certains plateaux, certains niveaux que, tu sais, c'est un diplôme, la personne qui a parlé avant, la madame, qui s'en allait au cégep. Mais je veux dire, dans sa généralité, parce qu'on peut pas plaire à tout le monde, mais dans sa généralité, si en venant qu'on maintient l'enfant dans sa routine, dans son apprentissage, dans sa connexion au travail de Teams ou au travail de d'autres plateaux, médias sociaux, évidemment, ça peut faire du positif que l'enfant reste sous sa Xbox. Je sais pas, là, je lance ça de même. Donc, c'est là pourquoi je me disais, la note, paf, mais l'apprentissage et la continuité, oui.
Tout à fait. Merci Stéphane, merci beaucoup de votre commentaire. On revient tout de suite après ceci. Merci beaucoup d'être aussi nombreux que vous le faites là à m'écrire. Il y a Chantal qui me dit qu'elle espère de tout cœur que l'école se fera en établissement, c'est-à-dire en temps réel, en présentiel cette rentrée et non pas virtuelle. Elle dit parce que l'expérience des derniers mois fut un vrai fiasco. Ma fille est en secondaire 2, dit Chantal. Ce fut tout un défi de garder la motivation. J'ai vraiment peur qu'elle décroche si en septembre ça continue à distance virtuellement. Alors pour vous rassurer, Chantal, ce que vient d'annoncer le ministre Robert, c'est que c'est 100% des élèves au niveau préscolaire, primaire, secondaire, même cégep, université, même si là, il faudra voir avec celles qui ont annoncé les universités que ça allait être en mode virtuel. Une chose est sûre, c'est que l'intention du ministre et du gouvernement Legault, c'est que toute personne qui doit suivre des cours puisse le faire en personne dans une salle de classe. Après, il y aura aménagement, bien sûr, de la dite salle de classe. Il faudra respecter des distances selon l'âge. Les 16 et plus, hier, Dr. Arruda l'a expliqué, c'est toujours le 2 mètres qui s'applique comme pour tous les adultes. On va rejoindre, puisqu'on parle ici de décrochage, de risque de décrochage, c'est toujours ça qui inquiète les experts en éducation. Déjà, on lui avait parlé également au début du mois de mai à Benoît Bernier, qui est directeur fondateur de Déclic. Déclic, c'est une ressource pour décrocheurs et raccrocheurs adultes qui présentent des troubles d'apprentissage. Bonjour, Benoît.
Bonjour Isabelle.
Là, c'était inévitable, il fallait que les élèves retournent à l'école. Hein, et je pense que c'est un soulagement pour bien des gens, y compris des parents qui sont en télétravail, qui se disaient, mon Dieu, si j'avais mes enfants encore à la maison, je sais pas comment j'aurais fait. En même temps, il y a déjà beaucoup de confusion, là, je le vois par les questions des gens. Comment vous voyez ça, vous, Benoît Bernier?
Mon Dieu, ben évidemment, la confusion, ça vient du fait que ben ça a été difficile de s'adapter pour tout le monde. Je pense que la santé publique envoyait des directives, puis ils s'adaptaient aussi en fonction de ce qu'on développait comme connaissance et comme savoir sur ce virus-là, puis la manière de réagir ou d'agir pour conserver la santé des gens. Donc, il y a eu quelque chose là-dedans, c'est certain, qui a semé de la confusion. Est-ce que c'était volontaire? Moi, je ne peux pas, là. Puis après ça, ben, c'est de comprendre que ces changements-là de directive ont pu créer une forme d'insécurité chez un peu tout le monde, les parents, les intervenants, les enseignants qui ne savaient plus comment percevoir la chose. Puis il va falloir aussi continuer, je pense, dans ce sens-là, c'est de rassurer les gens sur ce que l'on connaît, sur je pense que la santé publique est claire à ce niveau-là sur les directives en fonction des âges et tout ça. On comprend qu'il y a des populations moins à risque. Puis dans les écoles, ben, l'école primaire, l'école secondaire, moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ceux qui ont 16 ans et plus. Je pense qu'on lui a répondu partiellement.
Ouais.
Hein, c'est ça, il y aura une présence hybride, donc partiellement en distanciation plus grande et partiellement à distance.
Mais ça inquiétait Gilles de Royer tout à l'heure, que vous connaissez bien, qui disait, et c'est là où il y a toujours ce risque entre 16 et 19 ans, entre autres au parcours professionnel ou à la formation des adultes. Là, entre 16 et 19 ans, c'est à peu près ça l'âge moyen. Lui, il s'inquiétait beaucoup du décrochage potentiel de plein de cohortes et il disait, c'est dommage, on est encore à la remorque des indications de santé. Donc, lui disait, faut balancer l'impact, puis il suggérait que l'impact en ce moment, là, les séquelles avaient été tellement grandes que probablement que cet automne, là, si on est encore à la fois dans un modèle hybride là, pour les plus vieux, ça risque d'être un problème.
Je crois aussi. Je crois que les élèves les plus fragiles, ceux qui présentent le plus de difficultés, sont ceux qui devraient être présents. Malheureusement, il y a une question d'infrastructure là-dedans. Il y a une question de, encore une fois, de distanciation, mais est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir autrement, c'est-à-dire avoir des écoles qui permettent de réaménager les horaires, encore une fois, pour avoir des présences plus complètes sur des temps étendus, possiblement, mais déjà que la présence en formation générale des adultes, c'est pas évident. Le taux d'absentéisme dans ce sens-là est très élevé en ce moment. Il l'était avant la pandémie. Ce ne sera pas mieux, d'après moi, là, après. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux sur les besoins de ces populations-là qui fréquentent les centres d'éducation des adultes, leur disponibilité, est-ce qu'ils travaillent, est-ce qu'ils ne travaillent pas. Donc, oui, il y a encore beaucoup de questions. Je suis d'accord avec Égide. Oui, c'est inquiétant. Qu'est-ce qui va se passer en septembre avec nos élèves les plus vulnérables qui se retrouvent en formation générale des adultes? Il n'y a rien de garanti.
Oui, puis il va y avoir aussi sans doute des groupes hétérogènes, là, parce qu'il y en a qui vont avoir suivi des cours à distance. Il y en a qui vont avoir suivi le mot d'ordre du ministre Roberge, puis de s'être mis en vacances. Il y en a qui se sont trouvés des petites jobines. Il y a plein de niveaux différents. Les enfants, les jeunes surtout, les plus vieux, là, vont vont se ramasser en secondaire 4, secondaire 5, au cégep, université, peut-être avec des... Puis même, à la rigueur, tout le monde, même au primaire, c'est pas tous les parents qui ont été en mesure là, de faire l'école à la maison autant qu'ils l'auraient souhaité. D'abord, après, il y a une compétence. On peut être parent, ça fait pas de nous un éducateur. Bref, les niveaux là, vont être très différents. Là.
Les niveaux vont être différents, mais il y a aussi, il faut pas oublier que cet été, il n'y a pas de cours de rattrapage, il n'y a pas les cours d'été.
C'est vrai.
Ou en tout cas pratiquement pas. Et les élèves qui comptaient là-dessus pour pouvoir entrer au cégep, par exemple, vont devoir faire ça à distance cet été en formation générale des adultes. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va retarder des entrées au cégep? Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion à avoir aussi de leur côté pour être capable d'accommoder en fait ces élèves-là au cégep et en faisant terminer les acquis qui ne sont pas complétés? Je réfléchis en même temps que, que
ouais,
je vous parle.
Ouais.
Mais il y a cette population-là qui se retrouve cet été en fait en formation générale des adultes, possiblement à distance ou uniquement à distance, et qui n'aura peut-être pas la capacité de compléter ces acquis-là. Donc moi ça, oui, il y a effectivement beaucoup d'inquiétudes sur les impacts de cette incapacité-là en regard du raccrochage scolaire de ces jeunes-là qui sont déjà en difficulté.
Mm-hmm. On a Chantal qui nous appelle. Je vais voir ce qu'elle veut nous dire là-dessus. Bonjour, Chantal.
Oui, bonjour. Ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai une fille qui s'en va en secondaire 2, un garçon qui s'en va en secondaire 4, mais qui me pose la question que je me pose, en fait, c'est que mon garçon est au sport-études. Mm-hmm. Donc, il est à l'école l'avant-midi, fait son sport l'après-midi, mais ça, on n'en a pas vraiment entendu parler encore. Fait que c'est plus ça qui...
C'est un bon point, effectivement. Oui. Ouais. J'ai pas de réponse pour vous là-dessus. Je crois pas que ça ait été abordé, peut-être en période des questions, mais c'est clair que là, on est dans les détails, mais c'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont en sport-études. Effectivement, beaucoup de gens me parlent justement des cours d'éducation physique. Est-ce que ça veut dire que... Parce que là, la gestion des gouttelettes... comment tu fais ça, là? Ça va être... ça, on n'est pas allé là encore, là. Donc, j'ai pas de réponse idéale pour vous, à moins que Benoît Bernier, mon invité, en ait une, Benoît.
Non, c'est pas tellement...
Non, c'est ça. Ça, c'était une très bonne question, Chantal. Gardez-la oui. pour tout à l'heure. Merci beaucoup de l'avoir posée. Non, mais Benoît, il y a ça, là. Tout le reste, c'est de l'inconnu. C'est vrai qu'on... Puis à la décharge du ministre puis du gouvernement, on le sait, là, on n'était pas... Personne... on n'attendait pas ça. Il y a un peu de déni. Il y a même eu beaucoup de déni, sans doute, au début. Aujourd'hui, on peut plus dire qu'on est dans le déni. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on soit un petit peu visionnaire. Mais c'est sûr qu'on est à tâtons. On ne sait pas. La deuxième vague va frapper quand? Est-ce que, selon les âges, avec la distance... Bref, on aurait peut-être pu souhaiter quelque chose de plus simple. Mais disons qu'on fera avec ce qu'ils nous donnent pour l'instant. Merci beaucoup, Benoît Bernier. On espère que ça ne vous amènera pas une nouvelle cohorte de décrocheurs.
On l'espère également. Merci, Isabelle.
Merci à vous. Benoît Bernier est directeur fondateur de l'organisme Déclic qui s'occupe justement de raccrocher des jeunes décrocheurs, des adultes aussi là, qui se retrouvent à vouloir performer à nouveau sur le marché de l'école. On va s'arrêter ici, nous, mais après, on continue l'émission.